Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui nous rejoignent, moi je suis déjà là depuis une heure, mais viennent d'arriver dans le studio pour commenter l'actualité. Nadège Azaz, bonjour.
Bonjour.
Présidente du groupe socialiste Conseil Régional Île-de-France, vous êtes conseillère municipale à Châtillon. Michel Taupe, fondateur du site d'information Opinion Internationale.
Bonjour.
Vous êtes également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Nicolas Moreau, bonjour, membre du collectif Antigone. Et Sophie de Menton,
bonjour.
Chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Bonjour Sophie.
Bonjour, chère.
La nouveauté de cette année, les coups de cœur, les coups de gueule, beaucoup plus de coups de gueule, allez savoir pourquoi parmi nos intervenants, mais je crois que Nicolas Moreau, il est beaucoup plus positif. Hein. Vous aurez des coups de cœur, je crois.
Ouais, j'ai de tout.
Hein. Allez, on va y revenir. On va revenir sur le rapport de l'Institut Montaigne, inquiétante montée du salafisme en France. L'islam est-il compatible avec la République? Dites-nous ce que vous en pensez. Manuel Valls, député français et probable candidat à la mairie de Barcelone. Alors, est-ce qu'il est plus souvent à Évry ou plus souvent à Barcelone? On va en parler. Et puis le bizutage interdit par la loi se perpétue en France. Chaque année, moi je suis sidérée, on nous dit qu'il y a une loi. Et puis chaque année, on nous dit qu'il y a des bizutages qui continuent. Donc l'impuissance de l'État et des pouvoirs publics m'interroge. Voilà les sujets dont nous allons débattre aujourd'hui. On va commencer avec vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Sophie, tiens, je vais commencer avec vous.
En fait, j'avais deux coups de gueule, mais le plus important est quand même un peu celui... sur l'attitude de la France envers le Qatar. Mmh. Je veux dire qu'il y a un moment, quand l'hôtel de la Marine, un des plus beaux monuments parisiens français, place de la Concorde, est quasi vendu au Qatar pour 20 ans. Alors on ne sait pas si c'est vendu ou c'est les 20 ans qui vont effectivement être une exclusivité du Qatar. Et je pense qu'au moment, et ça évoque le sujet qu'on va traiter tout à l'heure, il y a un moment... où la lutte contre l'islamisme, où la tolérance envers des pays complices de cet islamisme est quand même très inquiétant. Je pense qu'entre le rachat des clubs de foot, des musées français, cette espèce de tolérance me gêne énormément. Et je pense que la politique étrangère et les liens commerciaux, sous prétexte de favoriser les échanges, ne sont pas une justification à tout. Moi, l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, j'ai pas envie que ce soit vendu au Qatar.
Oui. Vous voulez réagir, Michel Taube ?
Non, mais évidemment, dans le principe, je suis bien entendu d'accord avec vous, Sophie, mais après, combien d'intérêts français sont détenus par des pays arabes ? Le Louvre à Abu Dhabi, c'est certainement tout aussi choquant.
Le Louvre à Abu Dhabi, c'est pas la même chose que le Qatar à Paris.
Mais le Qatar à Paris, mais tous les pays du Golfe sont très présents à Paris.
Trop.
Le Qatar est présent dans
Trop.
Le groupe Accor. Le Qatar est actionnaire du groupe
Lagardère.
Donc
35 000 mètres carrés
sont
la propriété des Qataris sur les Champs-Élysées.
Mais les Saoudiens,
c'est ce que je dis, Michel.
Et le Qatar, c'est certainement pas le pays qui est le plus. Non, j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus. C'est certainement pas le pays qui est le plus.
C'est pas le pire.
C'est pas le pire. Bon. Prenons l'exemple dans ce cas-là. Peut-être que vous serez d'accord avec le nouveau Premier ministre espagnol qui a annulé un contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite parce que les armes allaient soutenir la guerre au Yémen.
Et bravo à lui.
Voilà. Oui, mais lui, c'est un socialiste qui est très minoritaire
en Europe
aujourd'hui.
Mais on s'en fiche des socialistes, c'est pas le sujet.
Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que la France peut se permettre de faire ça ?
On se le permet.
Oui. Il y a la question de l'articulation entre les intérêts économiques et ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ensuite la stratégie géopolitique et être en capacité, malgré le fait qu'il puisse y avoir des intérêts, parce qu'on est aussi dans une économie globalisée, mais à un moment donné, d'avoir un gouvernement suffisamment fort pour aussi être en capacité d'affronter un certain nombre d'idéologies. On y reviendra tout à l'heure.
Mais, oui. Nicolas Moreau, cette acquisition par le Qatar, cette possibilité, pour le Qatar.
On pourrait se permettre de dire non, parce qu'on n'a pas des grands intérêts économiques avec le Qatar en vérité. Par contre, on a des intérêts géopolitiques qui sont nettement plus importants, puisqu'on joue toujours avec la Turquie, avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite, un jeu de billard à trois bandes dans lequel on essaye de privilégier les uns, un coup privilégier les autres, etc. On a privilégié un peu l'Iran récemment, on revient à privilégier l'Arabie Saoudite. On voit la Turquie monter, donc on va sûrement privilégier encore ces deux pays-là face à la Turquie. Enfin, tout ça, c'est des jeux qui sont très compliqués. Et en échange de quoi, effectivement, on est obligé de donner des gages de bonne volonté au Qatar ou à l'Arabie
Saoudite. Enfin, moi, la capitaliste, j'estime que tout n'est pas à acheter et que c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes actuels. en particulier dans ce cas précis d'une guerre islamiste.
Mmh. En tout cas, il est possible que le principe de réalité recule face à un certain nombre de valeurs, et c'est ce dont a pu témoigner le gouvernement espagnol.
Et puis, juste en précisant, il ne s'agit pas de vendre l'hôtel de la Marine. Non, il s'agit de faire
Pendant 20 ans, c'est un contrat pendant 20 ans. C'est quand même...
C'est 20 ans d'exposition qatarienne.
Mais comme le disait Valérie Expert, il y a des milliers de mètres carrés de Paris, notamment dans les beaux quartiers, qui sont propriétés de ressortissants et même d'États.
Il y a le Paris Saint-Germain qui appartient aux Qataris, le Royal Monceau, je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Absolument.
L'endroit, le Virgin, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits qui aujourd'hui.
Oui, mais George V appartient à la famille Al-Thani. Saoudien. Voilà, c'est le cas.
Mais on est là dans une.
Mais c'est comme ça depuis 10, 20 ans.
Oui, mais la situation a changé. Il y a 30 ans, ce n'était pas pareil. Voilà. Il y a 30 ans, excusez-moi, la situation internationale n'était pas pareille.
C'est pour ça qu'il y a eu de très fortes pressions sur ces pays-là, par les États-Unis d'ailleurs en premier et par l'Union européenne pas assez, pour qu'ils fassent le ménage dans leur pays, qu'ils fassent la guerre au terrorisme,
beaucoup moins,
etc.
C'est vrai. Juste encore un peu, quoi.
Non, en Arabie Saoudite, on lapide beaucoup. Des femmes sont condamnées pour leur engagement féministe, ce qui n'est pas le cas au Qatar et dans d'autres pays.
Je pense qu'il y a peut-être des manières de faire qui sont un petit peu différentes avec le Qatar. C'est pas non plus l'État le plus...
Évidemment, transparent, on va dire. C'est un modèle, bien entendu.
Mais voyez, par exemple, à Fontainebleau, je ne sais pas si vous savez, il y a un théâtre qui a été racheté par justement la famille Al-Thani, qui va exposer les joyaux de la collection Al-Thani là-bas. Enfin, bon. On va passer à votre coup de gueule, Nicolas Moreau, ou coup de cœur?
Je vais faire coup de cœur. On va essayer de rester positif. J'ai un coup de cœur pour la personne hier qui a envoyé une boule de pétanque à la figure de l'agresseur au couteau.
Ouais.
Parce qu'il y a eu hier,
c'est vrai.
Comme chacun sait, il y a eu
un peu triste comme coup de cœur, mais c'est bien quand même.
Non, mais c'est un bon coup de cœur dans le sens où
Quelqu'un qui intervient et qui laisse pas faire, quoi.
Quelqu'un
c'est vrai.
Qui intervient. Et en fait, il a eu un comportement de citoyen, ce qui est. On a eu souvent le débat ici de la disparition du sentiment de citoyenneté. Et de la disparition de la citoyenneté, c'est-à-dire que les individus ne prennent plus à cœur la vie publique, ils ne prennent plus à cœur de porter les valeurs ou de défendre les valeurs qu'ils ont à défendre. Et ici, on voit quelqu'un qui se comporte en citoyen, en intervenant pour empêcher d'autres individus de se faire attaquer. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est extrêmement courageux de sa part, puisque c'est pas avec deux boules de pétanque qu'on arrive à arrêter quelqu'un qui est armé d'une barre de fer ou d'un couteau. Donc c'est un grand coup de courage.
Oui.
Et voilà, c'est un coup de cœur pour cette personne.
C'est bien, c'est pas un coup de cœur. Et sur Djokovic aussi, vous vouliez un petit coup de cœur.
Ah, sur Djokovic, oui. Enfin, j'en ai.
Vous avez plein de coups de cœur. Vous êtes très positif aujourd'hui.
Il y a beaucoup de coups de cœur sportifs ce week-end. Il y a eu l'équipe de France hier qui a fait un très beau match et qui a fait une très belle fête ensuite. Et effectivement, je suis très content de revoir Djokovic arriver au top face à un Del Potro qui était lui aussi au top. C'était un peu déchirant comme match parce que les deux sont adorables et les deux sont des grands joueurs. Mais ça me fait très plaisir de voir Djokovic revenir à son juste niveau.
Nadège Azaz, votre coup de gueule?
Alors mon coup de gueule, il est assez classique pour une conseillère régionale d'opposition, c'est la galère des transports. Je pense à tous ces franciliens ce lundi matin qui ont encore vu des trains arriver en retard et qui continuent en fait de se déplacer dans des conditions qui sont extrêmement dégradées. Cet été a été quand même assez catastrophique. On a vu les épisodes sur la ligne 1 et sur la ligne 14 où les personnes ont dû être évacuées sur les rames, etc. Ouais. Donc moi, mon coup de gueule, là, il est de dire à Valérie Pécresse, s'il vous plaît, vous êtes présidente de la première région d'Europe, vous avez cette compétence. On a un certain nombre de dysfonctionnements. Plutôt que de passer votre temps à commenter l'actualité et à faire effectivement le tour de France...
C'est pas juste.
Je suis pas injuste.
En plus, c'est une compétence partagée.
On voit quand même la dégradation réelle.
Non, c'est vraiment... S'il y a quelqu'un qui bosse en politique, c'est Valérie Pécresse.
Sophie, mais pour la région? Pour la région, Sophie?
Oui, elle a toujours bossé.
Au moment où on est dans l'urgence écolo absolue, il faut juste rappeler une chose, c'est qu'un des premiers faits d'armes de Valérie Pécresse, c'est de supprimer la gratuité des transports en cas de pic de pollution. Donc vraiment, c'est au-delà aujourd'hui, travaillons ensemble.
Elle hérite quand même, pardon de vous le rappeler, Jean-Paul Huchon a été président de région pendant combien de temps?
Non, mais
la situation dont elle hérite est quand
pendant
même...
Pendant 18 ans, la situation, elle était dégradée, mais il y a quand même un certain nombre d'investissements qui ont été faits. Donc nous, ce qu'on demande, et là, sans idéologie, c'est qu'on puisse continuer. On a été en période de canicule quand même cet été, je ne sais pas si vous avez pris les métros, d'avoir quasiment une rame sur deux qui n'est pas climatisée quand il fait près de 38 degrés.
Oui, bah si en plus ça, ils sont gratuits, ça va pas manger les finances pour le faire.
Il faut être un peu positif.
Le RER A, le STIF a 200 millions de cagnottes.
Le RER A a été entièrement rénové, modernisé. Et il paraît que maintenant il y a moins de retard sur la ligne A, qui est la ligne d'Europe la plus fréquentée. Et puis surtout, vous êtes une femme politique et on le voit bien avec votre coup de gueule très politicien. C'est qu'en fait, tant que Hidalgo, Pécresse et les autres, j'ai envie de dire, ne se mettront pas autour d'une table pour ensemble coordonner les politiques de transport cohérentes, ça ne servira à rien de
sauver Paris d'Emma Hidalgo.
Aujourd'hui, il y a justement un sujet sur la question de la gratuité. Sans préjuger de ce qui pourra être donné, il est clair que la région doit aussi participer en fait, de ces réflexions. Voilà. Et j'avais aussi un coup de cœur, Valérie, qui rejoint un peu celui de Nicolas Moreau sur la question en fait, de faire corps et de faire nation. Ce que vous disiez avec la question de citoyenneté. Et pour rejoindre ce que vous disiez, je crois que le moment de symbiose hier soir entre l'équipe de France et ses supporters, eh ben, c'est quand même un super beau moment.
Oui, c'était un très beau moment, voilà. Effectivement. Je ne sais pas si ça durera et si ça...
En tout cas, en termes d'union nationale, ça fait du bien. Quoi. Un dimanche soir, de voir...
C'est vrai que la victoire avait été un petit peu volée par Benalla cet été.
Ah oui.
Pas pu tellement profiter. Michel Taube, votre coup de cœur, coup de gueule?
En fait, moi, c'était juste pour souligner une anomalie qui est pour moi presque médiatique. C'est qu'en fait, dimanche dernier, Emmanuel Macron a donné une grande interview à la télévision suédoise, c'est-à-dire à une semaine des élections législatives qui se sont déroulées hier soir. Et c'était une interview de 15 minutes au beau milieu d'un débat entre Carl Bildt, ancien ministre des Affaires étrangères suédois, et le leader de l'extrême droite suédoise, dans lequel Emmanuel Macron, président de la République française, s'immisce dans un débat de politique intérieure suédois pour dire ce qu'il pense, grosso modo, de ce que devraient plus ou moins voter les Suédois. Et ça, renseignement pris auprès d'amis suédois, de journalistes suédois, d'un côté, c'est l'engagement du président de la République pour son idée de l'Europe humaniste, libérale, progressiste, mais pour nos amis suédois, comme pour nos amis italiens et dans d'autres pays, ça s'appelle de l'arrogance. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que les médias français, à part une ligne dans le journal du dimanche, personne n'a relaté cette interview qui, encore une fois, montre bien la stratégie du président Macron de non seulement de s'impliquer, mais aussi, quelque part, de s'immiscer dans les choix de nos concitoyens européens. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose.
Allez, on se retrouve dans un instant pour commenter les sujets qui font l'actualité. 0826 300 300. Appelez-nous. On attend vos réactions, en particulier donc, sur ce rapport de l'Institut Montaigne qui souligne une inquiétante montée du salafisme en France. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Retour dans le studio de Sud Radio, on commente l'actualité avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff, on va parler donc de ce rapport de l'Institut Montaigne. Mais je voulais revenir sur une petite rencontre qui a eu lieu à Marseille, non pas celle avec Jean-Luc Mélenchon que tout le monde commente. Je pense qu'on n'a pas besoin, où Jean-Luc Mélenchon est revenu sur les propos qu'il avait tenus face au président de la République. Non, c'est une rencontre avec des gens qui étaient... vous savez qu'à Marseille, donc, il a pris un bain de foule, Emmanuel Macron, tard dans la nuit sur le Vieux-Port. Et il y a un homme qui se présente comme un sans-papier, qui l'aborde et qui lui dit « Monsieur Macron, on est sans-papier, on t'aime trop ici. On t'aime. » Alors Emmanuel Macron, le président de la République, lui dit « Il faut régulariser la situation. » Et il lui demande d'où il vient. Le jeune homme lui répond qu'il est algérien, mais qu'il a grandi à Marseille et qu'il vient pour les vacances. Donc ça fait 8 ans qu'il est là. Le dialogue donc reprend et le président de la République lui dit « 8 ans, vous vous foutez de moi ?» Et puis voilà, il continue son chemin en disant « Ah bon ?» et il continue.
Alors d'abord, ça s'appelle le baiser qui tue.
On t'aime trop.
C'est le baiser qui tue. Ça prouve d'abord, premièrement, qu'il y a une forme d'impunité, quand même d'arrogance incroyable. Parce que déclarer au président de la République en frimant qu'on est illégal sur le sol français, ça veut dire que le mec risque rien et qu'il le sait. Deuxièmement, le président de la République, étant donné l'état d'esprit ambiant, ne peut en aucun cas engueuler ce malheureux. Parce que si on s'attaque à un sans-papier et qu'on réagit, il aura la presse contre lui, etc. Par contre, effectivement, je veux dire, on peut engueuler un petit Français tant qu'on veut. Mais un sans-papier, on n'y touche pas.
Oui, vous faites allusion au jeune garçon qui l'avait interpellé en lui disant « Manu, et à qui il avait fait tout un sermon. C'est vrai qu'il y a une...
Et c'est vrai, non mais voilà, mais c'est le politiquement correct, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont intouchables. Il y a des gens qui sont intouchables, on ne peut pas leur faire de réflexion, ils peuvent être mal élevés, vous tutoyer, etc. Ça n'a pas d'importance. Alors, il a quand même dit « vous vous foutez de moi ». Bon, waouh.
Bah, hésitez-moi, parce qu'il a été surpris.
Michel Taube. Oui, je pense qu'il
a été surpris d'apprendre une réalité, pourtant, qui est extrêmement répandue. Quand cette personne lui dit, ça fait 8 ans qu'il est sans papier, qu'il est en France. Mais c'est des dizaines de milliers de sans-papiers qui sont en France depuis des années.
Il y a une hypocrisie générale,
que ce soit sous Sarkozy, sous Hollande, sous Macron aujourd'hui, c'est qu'il y a une réalité qu'il y a des dizaines de milliers de sans-papiers qui vivent sur le territoire français, qui ne peuvent pas revenir pour la plupart dans leur pays d'origine, qui ne le veulent pas mais qui ne le peuvent pas non plus, et dont la France... en fait, ignore l'existence, pas que sur le plan médiatique et politique, avec la remarque de Macron, mais au niveau de l'administration.
Mais qu'est-ce qui serait passé si le président de la République, après tout, avait dit à quelqu'un, il était
avait dit quoi,
de
un
flics.
Policier, non, mais attendez, interpellez-le, oui. il est en situation irrégulière.
Ce monsieur est en situation irrégulière. Voulez-vous, je vous prie, le conduire au commissariat pour qu'on voit ça. Mais et vous imaginez
qu'est-ce qu'ils auraient fait au commissariat? Ils l'auraient renvoyé en Algérie.
Ça aurait cartonné. On demande que ça en France, un petit peu de fermeté de l'État. On demande que ça dans tous les sujets. On demande que ça, que l'État arrête de se faire marcher sur les pieds par la terre entière, par tout le monde. Enfin, pas forcément l'État, mais surtout les fonctions régaliennes. Et qu'elle se fasse mieux respecter. Bon, là c'était l'occasion de dire voilà, il y a une loi, on l'a fait appliquer.
La réponse de dire il faut régulariser, ça veut rien dire, parce que cet homme, si ça se trouve, essaye de régulariser et il n'y arrive pas.
Si ça fait 8 ans qu'il est sur le territoire et qu'il n'a toujours pas été reconduit, moi je ne pense pas non plus que ce soit quelque chose qui soit totalement du fait aussi des forces de police. C'est simplement voir, c'est parce que c'est aussi pas forcément un criminel, hein. Tous les sans-papiers ne sont pas des criminels, heureusement.
Non, mais ce que vous disiez, c'est que c'est une situation qui est extrêmement courante. Cette personne, soit elle a la possibilité d'être régularisée parce qu'elle remplit les conditions légales, et dans ce cas-là, il faut qu'elle puisse être régularisée, soit effectivement, elle n'a rien à faire sur le territoire, et dans ce cas-là,
c'est peut-être aussi un peu dans la provocation. C'est ce discours qui ne va pas, parce Michel que Taube. tous les sans-papiers ne rentrent pas soit dans la catégorie régularisable, parce qu'ils remplissent les conditions, très peu les remplissent, c'est ça la réalité. Ouais. Et les autres, on ne peut pas les reconduire. C'est des dizaines de milliers. La police ne va pas faire des arrestations de masse dans certains quartiers. On parlait de Stalingrad tout à l'heure et de la Porte de la Chapelle. Ils ne vont pas envoyer des dizaines de milliers de policiers pour interpeller des dizaines de milliers de sans-papiers qu'il y a en France. Ce n'est pas possible.
Il faut
donc
qu'il y ait du volontarisme.
Parce que par ailleurs,
même d'un point de vue humanitaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser en fait, des milliers de personnes dans cette espèce de no man's land juridique.
Qu'est-ce que ça
avec des gens qui vivent sur le territoire. Non, mais qui certainement, Sophie, qui certainement ont aussi envie peut-être d'appartenir à la nation française. Je veux dire, attendez, Sophie, tous les sans-papiers ne sont pas simplement là pour abuser des aides sociales ou ce type de choses-là. Non, Sophie, non. Il y a aussi des gens
qui sont en train de se
porter attente à toute l'histoire de France aussi, qui a une tradition d'accueil.
Parce qu'ils n'y ont quasiment pas droit, ceux qui sont sans-papiers. Ils touchent des aides d'associations, ils sont hébergés dans des centres d'hébergement d'urgence.
Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas dire que les gens qui arrivent en France, c'est juste par l'amour de la République française qu'ils viennent sur le territoire français. La réponse est non. Ils viennent parce qu'ils ont besoin, et on les comprend, de protection de santé. On voit dans les hôpitaux les gens qui débarquent juste pour se faire soigner. Ils viennent parce qu'ils veulent trouver du travail. Et je ne critique pas des gens qui sont obligés de fuir de leur pays pour essayer d'avoir une situation économique meilleure. Mais arrêtons de dire qu'il faut une situation plus claire, qu'il faut les comprendre, etc. On n'a pas les moyens.
En tout cas, je parie que ce sans-papier
va être régularisé.
Moi, je ne crois pas.
Que mais ce papier si, sera régularisé
bah oui, parce
non,
que comme
parce qu'il n'était pas tout seul. Il y avait une foule de gens qui sont venus le voir.
Par ailleurs, ça questionne aussi qu'un sans-papier, justement, présumé, parce que par ailleurs, on ne sait pas vraiment. Ça se trouve, il est simplement dans la provocation. Enfin, on ne sait pas. Enfin, on n'a pas non plus d'éléments là-dessus. Mais ça, il y a aussi une petite signification qui, justement, là, vous contredit un peu, Sophie. C'est qu'un sans-papier vienne accueillir aussi peut-être le président de la République et voir le président de la République. Il y a un peu de symbolique aussi là-dessus. Le président de la République de la France.
Non, mais il n'est pas forcément qu'impunité.
C'est aller voir aussi celui qui est l'institution suprême. Et je répète, il faut qu'il y ait un vrai volontarisme là-dessus. On ne peut pas non plus, pour des raisons humanitaires, laisser autant de gens dans cette espèce de no man's land.
Expliquez-moi.
Soit ils sont régularisables, soit ils ne le sont pas.
Nicolas, voilà.
Non, mais c'est clairement la notion d'impunité. Enfin, soit, soit il est vraiment sans papier, il peut se permettre d'aller interpeller le président de la République en ayant peur de rien, soit il n'est pas sans papier, et ça veut quand même dire qu'on peut se permettre de se moquer du président de la République sans rien sans rien risquer.
Donc dans les deux cas, cet échange était assez ubuesque. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'était pas dans la provocation, ils étaient vraiment très contents de voir le président de la République. Donc c'est, je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte de l'absurdité de la situation. Allez, on va passer à un autre sujet, donc l'inquiétante montée du salafisme en France. C'est un rapport qui est remis aujourd'hui même au Premier ministre, au président de la République. C'est l'Institut Montaigne qui a des conclusions. Donc l'auteur s'appelle Hakim El-Karaoui. Et pour lui, l'islamisme est aujourd'hui en situation de monopole intellectuel, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les librairies. Il dit qu'il y a de plus en plus de salafistes qui agissent de façon un petit peu détournée pour conquérir justement de plus en plus de musulmans. Donc il demande à ce qu'il y ait une taxe sur le halal, qu'on apprenne l'arabe à l'école beaucoup plus tôt. Ça, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Il faudra m'expliquer la cohérence. En tout cas, il appelle à une véritable réforme de l'islam de France, et donc cette taxation des produits pour financer la construction des mosquées. 0826 300 300, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Michel Thaube.
Alors, il y aurait tellement de choses à dire. D'abord, je voudrais saluer la démarche d'Hakim El-Karoui, qui n'est quand même pas n'importe qui, hein, parce qu'il est
pas
conseiller
très connu du grand public.
Non, mais il avait déjà fait un premier rapport sur l'islam en France il y a 4 ans, qui était une véritable bombe, puisqu'il avait montré que pour près de 30% des musulmans de France, ils considéraient que la charia est supérieure à la loi de la République. Donc il avait mis, lui, sur une réalité d'une dimension très importante pour les musulmans de France. Et là, il revient avec une nouvelle étude, une sorte de mise à jour de la première étude, qui montre que la situation a empiré. C'est-à-dire qu'effectivement, les idées islamistes ont gagné du terrain dans la population. Mais il n'est pas n'importe qui, parce qu'il est aussi un conseiller occulte, mais pas si occulte de ça, que cela d'Emmanuel Macron, puisqu'il a ses entrées à l'Élysée.
Et même il y a 3-4 mois, il a demandé un rapport, donc il n'est pas occulte.
Non, mais... Bien sûr, mais il est proche, il est un petit peu, j'ai envie de dire, la voix d'Emmanuel Macron dans la communauté musulmane. Et il sert un petit peu d'avant-garde pour les mesures que l'on attend depuis un an déjà du président de la République, et qui devraient normalement, si ça n'est pas à nouveau reporté pour la 9e fois, annoncer au mois d'octobre.
On va y revenir justement. Vous évoquez le fait qu'il n'y ait pas eu de prise de parole du président de la République sur l'islam de France, qui est un petit peu en contradiction avec ce rapport qui est relativement alarmiste et alarmant. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio et appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut taxer les produits halal de manière à ce qu'on puisse financer les mosquées de façon indépendante, et que ce ne soit plus les pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite qui le fassent? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Nous débattons des sujets qui font l'actualité avec aujourd'hui Nadège Azaz, présidente du groupe socialiste du conseil régional Île-de-France, conseillère municipale à Châtillon, Michel Thaube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Nicolas Moreau, membre du collectif Antigone, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Donc dimanche, l'Institut Montaigne a dévoilé ses propositions pour réformer l'islam de France, lequel serait de plus en plus sous l'influence du fondamentalisme. En tout cas, ce sont les conclusions du groupe de réflexion. Donc Michel Thaube, vous nous disiez juste avant la publicité qu'effectivement il fallait qu'il y ait une réforme qui soit faite, mais le président de la République ne s'est encore jamais exprimé. Et je trouve qu'il y a un décalage. Alors peut-être Nicolas Moreau, je vais donner la parole à Nicolas Moreau. Il y a un décalage entre le comportement, l'attitude du président de la République qui s'exprime très peu sur ce sujet et le rapport qui est très alarmant.
Sur ce sujet-là, oui. Bon, le président de la République fuit depuis des mois et des mois les questions de laïcité parce qu'il sait que c'est brûlant. Et il n'a pas envie de se mettre sur des questions brûlantes, tu vois, sur l'économie. Et il évite tout ce qui est question éventuellement qui pourrait aussi renforcer
ses
adversaires sur l'identité.
Il a quand même fait un grand discours devant les catholiques de France. Ouais. Ce qui en dit long sur les priorités qu'il donne.
Et qui avait tendance à briser la laïcité beaucoup plus, beaucoup plus qu'il la défendait.
Sur ce rapport, est-ce que ça va être un énième rapport? Est-ce que effectivement Hakim El-Karaoui va être entendu?
En fait, j'y crois peu. Hakim El-Karoui fait beaucoup de propositions qu'il avait déjà faites il y a 2-3 ans, notamment sur le financement par le halal ou l'apprentissage. J'y crois peu dans le sens où la philosophie même du rapport, c'est une prise en main par l'État de l'islam de France, qui est extrêmement arrogant et ce qui ne marchera jamais, ce qui n'a jamais marché nulle part. le fait est que...
C'est pas vrai que ça ne marche nulle part.
Ça ne marchera pas. Ils continueront... Ils vont former des imams qui vont aller dans des mosquées made in République. Enfin, c'est pas dit que les croyants y aillent. Et de toute façon, ceux qui posent problème ou les salafistes ne vont pas forcément à la mosquée. Ils vont même très peu à la mosquée, c'est dit dans le rapport. Ils s'informent sur Internet. Les islamistes, il dit dans le rapport,
ont le monopole du discours sur toutes les questions relatives à la foi musulmane. Les comptes les plus connus, les pages Facebook les plus suivies peuvent être reliées à des penseurs, des frères musulmans, les salafistes.
C'est pas le rôle de l'État. En fait, l'État se trompe quand il se dit qu'il va réussir à encadrer la pensée des gens, réussir à les faire penser mieux, réussir à les faire travailler mieux. L'État, il a un rôle. Appliquer les principes de la République. C'est son but. Il a qu'à fixer ses principes, il a qu'à dire des principes très simples, genre chez nous, les femmes et les hommes sont égaux, chez nous, l'antisémitisme n'est pas considéré, est une abomination, chez nous, l'homophobie est une abomination. Enfin, il fixe ses principes et il les fait respecter. Ensuite, libre à chacun d'interpréter les textes comme il veut, de faire comme il veut chez lui, tant qu'il respecte ses principes. Et ceux qui dépassent les lignes de ses principes ont à être punis par l'État. C'est ça son rôle. L'État n'a pas à dire aux gens ce qu'il doit penser, ce qu'il doit...
Non, mais l'État a contrôlé les prêches des imams et des
On n'en est plus là. Le problème, c'est qu'on n'en est plus là.
Je suis désolé.
Et Internet, l'État a les moyens, effectivement, de coercition pour les personnes. Parce que la question, ce n'est pas tant de se dire est-ce que les religions sont ou non compatibles avec la religion.
Mais
par ailleurs, il y a le principe de laïcité. Donc la religion, elle n'a même pas à être compatible en fait, avec la République. Il y a des lois, les lois de la République, effectivement, qui sont prises au nom du peuple français, qui s'imposent à tous sur le territoire français. Et à partir du moment où une idéologie ne les respecte pas, là, il y a un pouvoir de coercition de la part de l'État qui doit faire fermer les mosquées, qui doit être encore plus, parce qu'on se rend compte que c'est au niveau d'Internet, etc., qu'il y a aussi cette espèce de diffusion de théories complotistes, etc., qui doit faire le boulot aussi de fermer ces sites à un moment donné. On se rend compte de plus en plus, dans ce rapport, c'est ce qui est dit, c'est que, en fait, aujourd'hui, la religion, elle ne se raconte plus à la maison, elle ne s'apprend plus à la maison, mais c'est sur Internet, etc., etc. Donc, il n'y a pas de possibilité, en fait, d'aller au-delà. C'est même plus à la mosquée.
C'est aussi à la mosquée. Aujourd'hui, il y a deux endroits où vous pouvez voir des foules se déplacer au même moment. C'est les matchs de foot et c'est les mosquées. Hein, moi, je l'ai fait récemment en allant à Évry-Courcouronnes. On parlera peut-être tout à l'heure du déserteur d'Évry qui s'appelle Manuel Valls. Mais franchement, c'est impressionnant de voir les milliers de nos concitoyens qui vont dans les mosquées.
Et moi, je respecte
les religions, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, quand j'apprends l'imam de Toulouse, qui est le président de l'association culturelle de la grande mosquée de Toulouse, qui a été inaugurée au mois de juin. Et je salue le fait que nos concitoyens musulmans puissent avoir des mosquées pour exercer leur culte. A tenu à de nombreuses reprises des propos antisémites et des propos contre l'égalité hommes-femmes sur ces prêches de la mosquée, du site interne de la mosquée, et que l'État n'a rien fait pour l'empêcher d'exercer de s'exprimer. C'est inadmissible.
Là, c'est le cas. Il est visé par une enquête. La grande mosquée l'a lâché.
Désolé, il est toujours en exercice. Pourquoi n'a-t-il pas démissionné de l'association de la grande mosquée de Toulouse? On ne peut pas permettre à des personnes comme ça de rester en place pendant...
Excusez-moi,
l'État n'a pas fait son boulot.
Le rapport de l'Institut Montaigne n'a pas été commandé par le gouvernement. Il ne sera pas remis au président de la République.
Mais je tiens à dire que Hakim El Karoui a quand même ses entrées à l'Élysée et est très proche du président de la République.
Je suppose quand même qu'ils sont capables de le lire sans qu'on le remette.
Oui.
Bon. Mais Michel, il y a un problème, c'est que... Ne rêvez pas. Il y a les extrémistes dans les mosquées qui font ce type de prêche, mais dans les mosquées... On prêche quand même ce qui est la base de l'islam, qui n'est quand même pas très compatible. Le rapport homme-femme, je veux dire, il n'y a pas une mosquée où on va dire
c'est comme
super,
dans toutes les religions.
Elle est toute
par ailleurs, je veux dire.
Enfin, c'est comme dans toutes les religions. Alors maintenant, dans ce rapport, il y a quelque chose qui est intéressant. Ils disent à cela devrait s'ajouter la réinvention de la promotion du discours républicain. Alors ça, c'est le grand truc en ce moment. Il faut faire un discours républicain que les Français, d'ailleurs, n'assimilent pas et ne connaissent pas plus. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est. Donc on brandit le terme de République en permanence, qui ne veut plus dire grand-chose dans l'esprit des jeunes, la République. C'est déjà quelque chose d'important. Mobiliser le ministère de l'Éducation nationale, si c'est pour apprendre l'arabe, merci. Une institution chargée d'organiser et de financer le culte musulman. Ben non. Non, parce
mais
que...
Pourquoi pas? Parce que s'il n'y a pas d'intervention...
Non, mais vous vous imaginez
sinon
quand même pas...
c'est l'Arabie Saoudite qui
la
France.
C'est pour ça qu'ils veulent taxer le halal pour pouvoir financer les mosquées.
Alors, taxer le halal, oui, je suis d'accord. Mais ne nous mettons pas à la place. Je veux dire que réorganiser et interférer dans le culte musulman, ce n'est pas le rôle
apprendre,
de l'État.
Apprendre l'arabe, ce n'est pas interférer, Nadège, Sophie, oui, dans le culte musulman. En fait, apprendre l'arabe, c'est simplement permettre en fait, à des gamins, justement, de ne pas avoir des religieux qui vont leur apprendre l'arabe. Parce qu'aujourd'hui...
Oh, j'y crois pas.
Ah, mais absolument.
Est-ce qu'ils ont pas voulu apprendre l'arabe
à l'école française? Sophie, je vous assure.
Mais non, mais pas forcément à l'école française. Mais après, qu'il puisse y avoir des instituts, etc., complètement laïcs,
qui apprennent l'arabe.
Aujourd'hui, quand vous voulez faire apprendre l'arabe à vos enfants...
Mais pas dans le programme scolaire.
Mais c'est pas dans le programme scolaire, c'est proposé à apprendre
l'arabe
de manière
laïque. Une des raisons pour lesquelles ils prônent l'enseignement de l'arabe, et là, moi, je suis d'accord avec cette idée, c'est que il y a un problème identitaire chez ces jeunes qui sont tentés par le salafisme et par ces dérives de l'islam. Il y a un problème identitaire. C'est qu'il y a 10 ans ou 20 ans, ils se sentaient français. Aujourd'hui, ils se sentent musulmans. Donc, je pense qu'il est bon... plutôt de les réconcilier avec leurs racines, leurs origines, en leur permettant, pour ceux qui veulent, d'apprendre l'arabe, mais enseigné par des profs, pas par des religieux. Parce que le problème,
déjà.
C'est que,
ceux
qui enseignent l'arabe dans les mosquées, pendant les cours d'arabe, qu'est-ce qu'on leur demande ? On leur enseigne la prière. Et là, c'est fini, là, c'est perdu, effectivement, pour transmettre les valeurs de la République. Mais de transmettre une langue, que ce soit l'anglais, l'arabe, le français, l'allemand, peu importe, c'est bon, ça donne, c'est une approche sécularisée de la culture.
Je
donc ça, moi,
pas.
Je pense que c'est une bonne chose.
0,
mais c'est pas
826,
ça non plus qui va réconcilier
300,
l'islam de France.
Est-ce qu'il faut un islam de France? Est-ce qu'il faut taxer, encore une fois, les produits halal pour financer les mosquées, que les mosquées soient financées, donc qu'on connaisse, en fait, l'origine des fonds? Est-ce que c'est le fond du problème, d'ailleurs, Nicolas Moreau?
Non, mais ça marchera pas du tout. De toute façon, vous allez avec une taxe sur le halal pour financer des mosquées, vous allez créer des mosquées made in France avec des imams estampillés République, c'est très bien, mais les jeunes qui sont radicalisés et qui détestent la République vont pas aller là-bas pour changer d'avis sur la République, ça n'a aucun intérêt. Vous allez au mieux prêcher des convertis.
Oui, mais alors, sinon, si on finance, est-ce qu'il faut des mosquées
aussi pour l'avenir?
Non, mais est-ce qu'il faut des mosquées, oui ou non? Est-ce qu'il faut des mosquées?
Bien sûr.
S'il faut des mosquées, est-ce que c'est à l'État français de les financer?
Non.
Donc,
d'où la proposition.
Il faut taxer le halal.
Oui, voilà, d'où cette proposition. Parce que sinon, ce sont des donateurs de pays, des États du Golfe, qui, en faisant des dons, en fait, ont des contreparties sur le choix de l'imam, sur les doctrines qui sont.
Vous avez dit une chose tout à l'heure, Sophie. Vous allez juste créer deux réseaux de mosquées, un mosquée Made in République et puis un mosquée.
Je redis qu'on ne pourra pas éviter, si on veut. Freiner cette montée de l'islamisme en France, on ne pourra pas éviter que l'État s'implique. Parce que si l'État ne s'implique pas, ça va continuer à monter. Je ne vois pas qui d'autre pourrait financer par une loi...
Je ne crois pas à l'application de l'État. Il n'est pas efficace, l'État.
Parce que la taxe
l'État,
sur le marché halal, ça doit passer par une loi. Moi, je suis pour que l'État s'implique. Je suis pour que l'État forme des imams dans toute la France. Dans un pays où il y a 5 millions...
On ne va pas former des prêtres catholiques.
Mais écoutez, il y a plein de jeunes... intellectuels français de confession musulmane,
Michel,
qui ont fait des études de théologie, qui voudraient être des imams, qui ont tout,
qui
sont à la fois
raison,
républicains, qui sont à la fois
l'État
républicains
français.
Et qui sont des croyants,
c'est
et
la
qui voudraient,
j'en termine,
et qui voudraient, et qui voudraient conduire le prêche, et ils ne peuvent pas le faire.
Il y a un travail de sécularisation à faire, ça c'est clair, net et précis. L'islam est une religion qui est jeune en Occident, on peut se mettre tous les paravents qu'on veut, la réalité, c'est ce que vous dites. La réalité, c'est qu'on est confronté à un certain nombre de problèmes du fait aussi de l'impossibilité ou, je sais pas, de la jeunesse de cette religion pour être en capacité de mettre en place un certain nombre, peut-être, de garde-fous, etc. Donc, il faut, à un moment donné, qu'il y ait une action positive. Alors, est-ce qu'elle passe par l'État? Je ne sais pas, je n'en suis pas certaine, quand même, par rapport au principe de laïcité. Est-ce qu'il y a aussi une vraie responsabilité? Vous parliez de l'imam de Toulouse. Moi, ce matin, j'ai entendu l'imam de Bordeaux qui a effectivement parlé de la nécessité aussi pour les théologiens de l'islam aujourd'hui de penser la sécularisation de l'islam en Occident. Donc c'est toutes ces bonnes volontés-là, et ce rapport en participe, qui est de théoriser et
c'est
de commencer.
C'est la société qui doit agir.
Et moi j'ai juste une demande à faire sur ce sujet-là aussi, parce qu'il y va de notre responsabilité en tant que politique, en tant que personne qui avons un moyen d'expression publique, c'est aussi d'arrêter d'essentialiser les jeunes français a une religion. Voilà, parce que tous pas, les jeunes de l'immigration, etc., ne sont pas forcément musulmans. Et même s'ils sont musulmans, ils sont avant tout français. Et ça, qu'on commence déjà par faire...
Dans la vie quotidienne, c'est ce qui se passe.
Avoir recours à l'imam, etc. Oui, mais Mme Azaz, la réalité, c'est ce que dit le rapport, c'est que beaucoup d'entre eux, malheureusement, se sentent musulmans avant de se sentir français. Et là, j'aimerais revenir...
Et moi, j'aimerais... de choses-là, inviter l'imam sur les plateaux de télé dès qu'il y a un problème dans un quartier, etc. Ça a aussi contribué, au bout d'un certain nombre d'années, à faire en sorte de... qu'il y ait cette injonction qui pèse aussi sur ces gamins-là.
Même avant ça,
vous êtes avant tout musulmans. Non, ils sont français.
Mais ça, c'est vous qui le dites. Mais sauf que le rapport dit l'inverse. Le rapport dit qu'aujourd'hui, il y a une progression de 900% du nombre de fidèles. Donc,
voilà, 900%.
Nicolas Moreau.
Ça part du rejet de la France au départ. Les gens n'auraient pas besoin d'aller chercher ailleurs s'ils croyaient à la France ou à la République ou à quelque chose. Et ça, c'est venu d'où ? C'est venu dans les années 80, quand on a commencé à tenir des discours en disant aux jeunes, parce que c'était plus pratique pour les tenir électoralement, en disant aux jeunes, regardez, ils sont racistes, regardez, ils ne vous aiment pas, regardez, ils ne feront jamais de vous des vrais Français, regardez, vous ne serez jamais intégrés, etc. Ça permettait de garder des votes, c'était pratique. On avait des petites associations à côté comme SOS Racisme qui entretenaient le flot pour permettre de garder des votes. Alors c'est cool, on a gagné quelques élections, on a eu des socialistes au pouvoir, c'était sympa.
Pas que aujourd'hui, on en paye le prix.
Oui, maintenant, c'est pas vrai que la droite s'y est mise aussi.
Mais c'est vrai qu'à l'origine, c'est les socialistes.
À la base, c'était les socialistes qui donnaient des discours parce que c'était plus facile de segmenter la population et de leur donner des discours de rejet de la France plutôt que de leur proposer des solutions.
C'était plutôt de l'accommodement et ça, malheureusement, ça dépasse tous les partis politiques.
Mais ça vous a permis de gagner des élections. Vous avez gagné des élections, c'était cool. Maintenant, on en paye le prix, c'est un peu dommage.
Et j'aimerais rappeler aussi qu'il y a deux ans, Nathalie Kosciusko-Morizet avait déposé une proposition de loi d'interdiction du salafisme. Et elle avait réussi, parce qu'elle avait dû se battre contre son groupe politique, à présenter sa proposition de loi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, qui était Premier ministre à l'époque ? Manuel Valls. Et son ministre de la Justice, M. Urvoas, est monté à l'Assemblée pour dire non, on refuse de voter toute loi d'interdiction du salafisme parce que ça n'est pas possible, parce qu'il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion, etc., etc. Mais je veux souligner combien c'est difficile. Même Manuel Valls, qui est pourtant, qu'on ne peut pas soupçonner de la moindre collusion.
Souvent, là, on le voit. Hein.
Mais non, parce qu'en démocratie, on interdit
sur ces questions,
pas
il est quand même très droit et il a une vraie rectitude et je trouve un vrai courage comme peu en
mais
ont
Michel,
eu à gauche.
Vous êtes en train de souligner
mais ce que je veux
que
dire, c'est que.
On
en
vote
France,
pour son clan politique et on ne vote pas. Et
non,
c'est navrant.
C'est qu'en fait, c'est très difficile de se doter d'outils légaux pour empêcher la montée dans les têtes, effectivement, de ces idées nauséabondes et dangereuses pour la République. C'est très difficile de se doter des moyens juridiques et des moyens financiers, surtout dans un État laïque. Et moi, je le redis, je sais que c'est une opinion qui est très minoritaire en France aujourd'hui, mais je ne vois pas d'autre solution que de faire comme on a en Alsace-Moselle, un concordat entre l'islam de France et l'État, parce que sinon, les islamistes, comme le montre très bien le rapport, vont continuer à gagner
un
du terrain.
Un concordat, c'est donné une place incroyable, mais pourquoi pas un concordat avec les Juifs,
parce qu'il n'y a pas de problème avec
Michel,
la communauté juive en
on
France.
On va se retrouver
qu'est-ce
dans
que
quelques instants.
Le seul problème se pose malheureusement.
Un concordat, ce n'est pas uniquement à cause des problèmes.
On s'arrête. 0826-300-300, Manuel Valls. Probable candidat à la mairie de Barcelone, doit-il quitter son siège de député ? Est-ce qu'il peut mener de front cette campagne pour la mairie de Barcelone et être député ? On en parle avec vous dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On continue de débattre et de commenter l'actualité. Vous retrouverez André Bercoff à partir de midi, qui va continuer en totale liberté. Manuel Valls, député français, député d'Evry et probable candidat à la mairie de Barcelone. Visiblement, il passe pas mal de temps à Barcelone. Est-ce que ça vous semble normal, compatible ? Est-ce qu'il doit démissionner ? En fait, il garde une petite poire pour la soif au cas où ça ne fonctionnerait pas. Qu'est-ce que ça vous choque, Michel Taube ?
Attendons déjà de savoir s'il est candidat à la mairie de Barcelone, c'est pas encore fait. Mais c'est vrai que, alors on dit ancien monde, nouveau monde, mais plusieurs des nouveaux élus de la République, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, avaient démissionné de leur fonction, de leur statut de fonctionnaire pour pouvoir s'engager en politique plus récemment. Donc effectivement, il faudrait qu'il aille dans ce sens-là et que s'il annonce sa candidature à Barcelone, il annonce qu'en même temps, il démissionne. Pourquoi il doit démissionner ? parce que tout simplement, la circonscription d'Évry-Courcouronnes a besoin d'être représentée, a besoin d'avoir un député ou une députée qui défende ses intérêts et traite les problèmes. On vient de parler des problèmes d'islamisme. Malheureusement, il y en a dans cette circonscription et ça demande que le représentant de l'État soit tous les jours présent et sur le terrain et à l'Assemblée pour traiter ces problèmes.
Alors,
et ce n'est pas de Barcelone qu'il va le
faire. Michel, je comprends et ça justifie, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que on est en train de faire l'Europe. Et je trouve que, alors je suis à la fois partagée, parce qu'il y a quand même la façon dont ça s'est passé, il y a une espèce de démission française, de revanche, et pas toujours très sympathique. Il tombe brutalement amoureux d'une milliardaire au mois de juillet,
Je ne prête aucune attention,
je lis ce que j'ai lu dans la presse que tout le monde a lu, il est brutalement amoureux au mois de juillet d'une femme qui est une milliardaire espagnole et qui veut conquérir la mairie avec lui, c'est ce qu'ils disent tous les deux. Ça me paraît un peu rapide et étrange, mais pourquoi pas. Et je pense qu'en revanche, il y a un aspect positif, c'est que ce serait assez extraordinaire qu'il y ait un Français qui conquiert une ville espagnole. C'est aussi un pas vers l'Europe. Donc je pense que c'est jouable. Pourquoi ne peut-il ne pas démissionner? On pourrait imaginer qu'il y ait un suppléant qui soit très actif et qui ait un moyen de s'arranger pour qu'il soit présent en France aussi. Je pense que c'est intéressant. Et alors, je vous donne une confidence. Nous avons reçu au sein du mouvement éthique que je préside, Manuel Valls, au mois de juillet. Il a été d'ailleurs excellent parce que c'est un homme intéressant qui avait d'ailleurs fait une croix un peu sur ses convictions économiques lorsqu'il était avec Hollande, mais qui en même temps a été fidèle jusqu'au bout. Et en partant dans l'escalier, je lui dis, bon, Manuel Valls, est-ce que vraiment vous avez envie d'y aller? Ça brillait, les yeux brillaient. Il dit oui, oui, etc. Je lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que les Français ne vous le pardonneront probablement pas? C'est-à-dire que c'est faire une croix sur votre vie politique française. Vous étiez quand même aimé de la... Y compris d'ailleurs de la droite à un certain moment.
Ça, c'est une analyse que vous faites. Je ne suis pas certaine que... partant maire de Barcelone, il ne puisse pas revenir.
Non, pas du tout. Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte? Et sa réaction a été oui, c'est fini pour la France, ils me détesteront d'être parti. C'est marrant parce que c'est peut-être ta sentiment.
Il a raison.
Nicolas Moreau.
Il a raison parce que ça ne peut pas être présenté comme autre chose que de l'opportunisme. Là. Il n'a pas grand-chose face à lui en France. Il est blacklisté par tout ce qui est Macronie, donc il a au Parti socialiste, ils en veulent plus.
Pas beaucoup d'ouverture.
Donc il a plus beaucoup d'ouverture. Il a une certaine assise encore populaire, mais qui est assez mince puisqu'il s'est cramé les ailes avec Hollande. Donc en France, il est un peu carbonisé pour 10 ou 15 ans, là, facile. Donc tout le monde a bien compris qu'il allait là-bas parce qu'il n'avait rien d'autre sous la main. Et malheureusement...
Et un nouvel amour.
S'il essaye de revenir après, ça ne marchera pas. Quoi.
Alors après, la question, il faudrait peut-être la poser aussi justement au mouvement qui lui a permis d'être élu, puisqu'il siège au sein de la majorité La République En Marche. Donc qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui au niveau de son mouvement politique, puisque vous savez qu'il a quitté... le Parti socialiste. Moi, la seule chose que je vois en tant qu'élu local, investi dans mes mandats, etc., c'est qu'en tout cas, ça donne une image quand même assez, un signal assez négatif en termes de carriérisme. On est un certain nombre d'élus à être extrêmement dévoués à nos mandats. On articule ça souvent avec une vie professionnelle par ailleurs, justement parce qu'on veut être totalement libre de pouvoir exercer nos mandats. La politique n'est pas un métier, c'est un engagement. Et il y a effectivement des Essoniens, des Essoniennes qui lui ont fait confiance, qui ont voté pour lui. Je rappelle qu'il a en plus été élu dans des conditions un peu compliquées.
Très, très juste.
Aujourd'hui, c'est quand même des personnes qui se retrouvent effectivement avec un député qui passe quand même beaucoup de temps à Barcelone.
Comme d'autres femmes en France,
alors,
à chagrin d'amour.
On a un appel, on a Dust qui est en ligne avec nous. Bonjour Dust.
Bonjour.
Vous habitez à Barcelone?
Non, pas si loin, dans les Pyrénées.
Pas très loin. D'accord. Voilà. Donc vous en pensez quoi de cette situation?
Je dirais qu'il y a deux aspects en fait. Sur le cumul des mandats, ça me fait un peu sourire quand le temps de cumuler les mandats avec Barcelone. En France, il y en a plein de gens qui n'ont pas 5 minutes à consacrer dans leur poste de député. Et c'est professionnel de cumuler les mandats quand même.
Ouais.
Après, en ce qui concerne le bonhomme, moi je le trouve personnellement très antipathique et très peu stable. Quoi. Je veux dire, il y a 10 ans, il est devenu ministre.
On vous entend pas, Dust. La liaison est très très mauvaise, hélas. Mais donc vous vous dites que bon, ça peut passer parce qu'il y a des députés qui font pas le boulot non plus. Quoi. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on entend de votre intervention. Mais c'est vrai que Le Parisien hier consacrait un article à la région, à la circonscription de Manuel Valls, et beaucoup disaient que, par exemple, il n'a pas fait la rentrée des classes à Évry cette année. Donc,
exactement.
Il n'était pas au forum des associations, enfin, ce qui fait le sel du métier.
Alors même que ça a été un excellent maire d'Évry, alors même que ça a été un excellent député.
Non, mais qu'il laisse sa place à son suppléant.
Oui, c'est ça, suppléant. Voilà, il a un suppléant.
Il laisse sa place, il démissionne, son suppléant prend sa place, et puis voilà. Et il va vers effectivement, une aventure européenne qui aura peut-être du succès, mais c'est pas gagné. C'est qu'en fait, la raison qui pourrait l'amener à ne pas démissionner, c'est qu'en fait, d'après les premiers sondages, c'est qu'il est très très loin d'être favori pour cette élection à la mairie de Barcelone.
Je sais pas, oui. Vous en pensez quoi?
Non, c'est pas gagné.
Olivier Moreau, oui, c'est pas gagné.
Non, la mairie de Barcelone, ils sont Podemos depuis quelques années, ce qui est quand même l'équivalent de la France Insoumise chez nous. Ils ne repasseront pas comme ça dans une liste Manuel Valls qui essaye en plus de faire une alliance un peu bizarre entre l'équivalent d'En Marche et l'équivalent de la droite de là-bas qui est totalement perdu. Enfin, c'est ça, plus le fait qu'il est parachuté, plus le fait que Barcelone ne se prête pas vraiment au centre-droit. Enfin, ça, c'est franchement pas gagné. Ouais, je ne sais pas ce qu'il a allé faire là-dedans, franchement.
Eh ben, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, tout comme notre ami André Berkoff qui vient de faire son entrée dans le studio. Bonjour André.
Bonjour Valérie.
Alors, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui?
Ah, écoutez, ce qui m'anime, c'est l'admirable Pax Marseillais, évidemment, entre Mélenchon et Macron, qui prévoit effectivement une grande avancée dans le « Je t'aime, moi non plus
»,
cher à Gainsbourg, comme quoi on peut toujours renouveler cette chanson.
C'est quoi? C'est de la lâcheté pour vous, de la part de Mélenchon?
Non, pas du tout, C'est pas de la lâcheté. Non. C'est, vous savez ce que c'est? C'est magnifique, c'est quelqu'un qui vient lui dire, parce que quand on me dit que c'est par hasard, c'est là que vous pouvez hurler de rire, et à part ça, il lui dit, alors j'ai dit que xénophobe...
Oui, c'est drôle.
Moi, j'ai dit ça.
Une exagération marseillaise.
Et alors, du coup, évidemment, enfin, le reste, vous le connaissez. Donc, on va un peu parler de ce Pax admirable. Et puis, on va parler... aussi de quelque chose de tout à fait... c'est les sans-papiers, vous savez, le sans-papier qu'a abordé Macron. Il y a eu un dialogue tout à fait étonnant entre Macron et le sans-papier.
On l'a évoqué. Allez, on se retrouve, nous, demain. Je laisse la place donc à André Berkoff. Bon après-midi sur Sud Radio.